écoutez un podcast Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Oui, bonjour, bienvenue sur l'émission Science et Conscience. Vous êtes bien sur Agora Côte d'Azur avec François. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la psychanalyse, de la théorie au rejet.
Agora Côte d'Azur présente
Science et Conscience.
François Conneau.
Alors, psychanalyse, eh bien en fait, c'est l'histoire d'une théorie qui n'en est pas une, ou encore c'est l'histoire d'une science qui n'en est pas une. Voilà ce qu'il en reste à peu près aujourd'hui, un siècle plus tard. Alors, et pourtant, les discours portés par la psychanalyse ont eu, et particulièrement en France, un impact culturel, et voire dans les politiques de l'éducation, eh bien un impact de premier plan. Aujourd'hui encore, la France demeure, avec aussi l'Argentine, curieusement, eh bien, le dernier pays au monde où la psychanalyse est encore perçue comme la pensée ultime ou comme la théorie, la science ultime en matière de psychologie et de psychothérapie. Alors, il n'y qu'à voir, par exemple, la place laissée dans les programmes de philosophie pour le baccalauréat, la place laissée à Sigmund Freud, à ses travaux et à ceux de ses héritiers. Encore aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus qu'en France où l'on voit cette place laissée à cette théorie. Pourtant, la psychanalyse n'est pas et n'a jamais été une science, ni même une théorie, et selon même la revendication de son auteur. Sinon, il l'aurait appelé psychologie, tout simplement. Mais psychanalyse, une analyse en épistémologie, c'est le début d'une science ou le début d'une théorie, mais c'est quelque chose qui n'est pas accompli. Donc c'est bien pour cela qu'au départ, ça ne se définit pas comme une science, mais effectivement, la postérité en a fait une science. Alors, ça a été en fait simplement une hypothèse de travail, hein, alors richement documentée, du fameux psychologue clinicien viennois, d'accord ? Et le fait le plus étonnant à son sujet, et pour l'historien des sciences, eh bien, c'est tout simplement le succès inconditionnel qui a couvert presque immédiatement ses travaux, alors même qu'en tant que clinicien, eh bien, Freud, de son propre aveu, n'est jamais parvenu à guérir un seul de ses patients qu'il soignait au cours de sa carrière. Donc, ce qui est quand même étonnant. C'est-à-dire qu'on peut voir des scientifiques qui vont mettre une carrière entière à démontrer la validité de ce qu'ils font au vu des résultats, mais en matière de résultats, Freud n'a jamais pu montrer quoi que ce soit de probant en matière de résultats positifs sur les méthodes qu'il employait. Alors, en fait, le problème de fond, et ça encore à la limite, on pourrait laisser les psychologues disserter entre eux de la validité de la démarche. Mais vu de l'extérieur, c'est-à-dire vu dans le référentiel de l'épistémologiste, eh bien, le problème de la psychologie, c'est qu'elle est basée sur une hypothèse invérifiable et infalsifiable. C'est ce qu'on appelle une théorie non réfutable. Pour un psychanalyste, si vous parlez avec lui de l'objet de base de la psychanalyse qui est l'existence de l'inconscient, le psychanalyste vous affirme que l'inconscient existe et que si vous mettez en doute ce propos, ce postulat, et que vous exigez des preuves, c'est que c'est votre propre inconscient qui parle et qui fait tout pour vous faire échapper à son investigation. Donc en réalité, le système est, qui se boucle en lui-même, si vous voulez, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Et alors évidemment, bon, ça pourrait être une simple faute méthodologique de la part d'un apprenti chercheur. Le problème, c'est que, comme on l'a vu au début de cette émission, le postulat même est devenu quasiment un dogme quasi religieux. Et du coup, cela a conduit à des modes thérapeutiques eux-mêmes indiscutables, puisque le postulat de base était indiscutable. C'est-à-dire que le mode d'analyse qui est fondé sur des écarts, des comportements, des faits ponctuels non répétables ou à des coïncidences. Par exemple, l'analyste, quand il travaille avec son patient, travaille beaucoup sur des coïncidences de langage, des coïncidences de comportement, des lapsus. En fait, pour un scientifique à la base, la science se base sur la répétabilité des expériences et on voit bien que la méthodologie qui est derrière est totalement incompatible avec ce mode de pensée. Peut-être que ça peut marcher, on va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, peut-être que ça peut marcher, mais en tout cas, cela n'a rien de démontrable. C'est exactement comme pour l'homéopathie. Ça peut peut-être marcher dans certains cas, mais on ne peut pas montrer qu'à grande échelle, systématiquement, le système soit bénéfique. Et donc, ce mode thérapeutique. Alors aujourd'hui, il reste encore dans la psychiatrie. Alors aux côtés d'autres méthodes qui heureusement ont été déployées depuis, ça s'appelle le mode de psychothérapie clinicienne. Hein, mais il a perdu beaucoup de sa crédibilité auprès des psychologues du monde entier. Il est limité aujourd'hui à des modes essentiellement de libération de la parole, de fluidification de la mémoire. Et donc c'est une thérapie qui maintenant, je dirais, adoucie, on va dire expurgée de ces dogmes incontournables, mais contribue enfin à soigner les patients sans les détruire, comme elle l'a fait trop souvent récemment, tout simplement parce qu'elle est appliquée sans discernement. Au-delà des errements auxquels cette pensée dominante a pu conduire une certaine élite intellectuelle, avec l'effet le plus dévastateur. Alors, non de la psychanalyse en elle-même, donc il ne faut pas nier les qualités, mais du monopole hein, des gens qui chantaient les louanges de Sigmund Freud un peu partout. Et ça a certainement été un des effets principaux de cette attitude intellectuelle, a été de scléroser durant près d'un siècle la pensée scientifique dans le domaine de la psychologie. Puisque pratiquement en dehors de la psychanalyse et de Freud, à un point de salut, vous étiez marginalisé dans le monde universitaire et il n'y avait pas moyen d'exprimer autre chose. Donc, alors si vous reprenez par exemple le biologiste Jacques Monod, l'un des parents de la découverte de l'ADN, prix Nobel de biologie, il avait été un des premiers à dénoncer cet état de fait hein, en disant « mais l'inconscient, montrez-le-moi ». C'est-à-dire que lui disait « c'est quelque chose de non réfutable et non scientifique ». Donc, en envoyant le problème de la psychanalyse, en tout cas de ceux qui en ont fait une sorte de religion, ça a été de renvoyer en arrière-plan d'autres travaux, alors quelquefois de gens très intéressants et contemporains de Sigmund Freud, comme par exemple Carl Jung et la théorie des archétypes, Pavlov aussi sur les comportements irrités. Voilà. Et donc, même à l'époque, cette monoculture de la psychanalyse a retardé les révolutions qui pourtant sont arrivées avec le temps et elles ont été inévitables. C'est-à-dire qu'on a pris un siècle de retard, mais toujours est-il que d'autres sciences se sont substituées au manquement de la psychologie, comme par exemple l'éthologie, la neurologie, la génétique. Et ces sciences, aux côtés d'une psychologie débarrassée, on va dire, de ces postulats, ont permis aujourd'hui de complètement bouleverser la connaissance du cerveau, des cerveaux, dit-on aujourd'hui, que l'être humain et la plupart des animaux ont plusieurs couches neuronales que l'on peut qualifier de cerveau, et évidemment du fonctionnement du tout, et ce, évidemment, pour le plus grand bénéfice des patients et de la compréhension de notre fonctionnement. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Et donc, je vous dis à bientôt sur Science et Conscience. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur. Au revoir.